sœurs et frères, ce passage de l'évangile de Matthieu, du sermon sur la montagne, cet enseignement sur la prière, pourrait être mis en relation avec les premières phrases par lesquelles commence l'institution chrétienne de Calvin. Vous savez que l'institution chrétienne a été un manuel de théologie écrit par Calvin, un résumé de la foi chrétienne dans sa structure et dans sa substance. Et ce livre a été au XVIe, au XVIIe siècle extraordinairement diffusé en France. Et notamment pendant ce qu'on a appelé la guerre des Camisards. C'est un livre qui a permis aux protestants de tenir, parce qu'il leur donnait le sens de ce qu'ils pouvaient croire de la part de Dieu. Or, les premières phrases, la première phrase de l'institution chrétienne de Calvin est pour dire que la somme de notre sagesse, la somme de ce que nous pouvons savoir, c'est de connaître Dieu, et qu'en connaissant Dieu, chacun de nous se connaisse aussi lui-même. En d'autres termes, tout le travail de la théologie, tout l'objet de la théologie, c'est de connaître Dieu, mais pas d'une connaissance objective. Elle est de connaître Dieu de telle sorte que cette connaissance de Dieu soit également une connaissance de nous-mêmes. Or, il me semble que la prière n'est rien d'autre que l'application de ce programme. Prier au cours de la prière, c'est au cours de sa vie, c'est apprendre peu à peu à connaître Dieu et à se connaître soi-même. Et ce que on trouve, ce qu'on peut lire dans les manuels de théologie, ce qu'on peut lire de manière intellectuelle, ce que l'on peut chercher à comprendre, ce que l'on enseigne dans les facultés de théologie, eh bien, la prière, ça n'est rien d'autre que l'épreuve concrète, l'épreuve personnelle de cette connaissance réciproque de Dieu et de nous-mêmes. Et vous voyez comment, dans ces deux petites recommandations par lesquelles Jésus commence lorsqu'il nous dit de ne pas prier comme des hypocrites ou de ne pas prier comme des païens, vous voyez au fond comment cela est en jeu. Parce que précisément, ne pas prier comme des hypocrites, c'est ne pas mentir, ne pas faire extérieurement ce qu'on ne fait pas intérieurement. Puisque les hypocrites, ce sont ceux qui prient pour donner le spectacle aux autres, pour se faire bien voir des autres, de la profondeur de leur engagement religieux. Mais intérieurement, c'est autre chose qui les habite. Intérieurement, c'est un souci de gloire personnelle, un souci de reconnaissance par les autres, et pas d'abord le souci d'être reconnu par Dieu. Et donc, la prière, ne pas prier comme les hypocrites, c'est essayer dans la prière d'être vrai. Essayer dans la prière d'être soi-même devant Dieu. Et donc, dans la prière, de faire un effort de vérité à l'égard de soi-même. Parce que sous le regard d'amour de Dieu, nous pouvons mettre notre vie à découvert. Et de la même manière, il ne s'agit pas de prier comme les païens, puisque Dieu sait déjà, avant même que nous le lui demandions, ce dont nous avons besoin. Et par conséquent, il ne s'agit pas, en quelque sorte, d'assiéger Dieu par nos besoins. Mais si Dieu sait déjà à quoi sert la prière, eh bien, à nouveau, la prière sert à prendre conscience de nos besoins. Mais attention, à prendre conscience de nos besoins véritables. Parce que quand Jésus dit que Dieu sait avant nous ce dont nous avons besoin, cela veut peut-être dire aussi que Dieu le sait mieux que nous, et donc que nous avons à l'apprendre. Et pour cela, la prière est précisément cet espace de silence, de repos, parce que pour prier, il faut s'arrêter de faire. Il faut faire une interruption dans ses préoccupations, dans ses soucis, dans ses activités. Et c'est précisément dans ces moments d'arrêt, dans ces moments de silence, que Dieu peut nous parler, que Dieu peut nous envoyer des idées qui peuvent nous venir à l'esprit. La prière est cet espace de vérité et cet espace de disponibilité. Et prier, c'est d'abord essayer de faire cette vérité sur nous-mêmes et de nous rendre disponibles pour autre chose que nos soucis, nos préoccupations et nos intérêts. Et alors nous pouvons entendre la manière dont Jésus nous apprend à prier. Parce que ce qui est très important, lorsque nous récitons notre Père, qui est l'exemple des prières, c'est que Jésus ne nous apprend pas une prière. Il ne nous apprend pas une prière à répéter, mais il nous apprend à prier. Il nous apprend dans quel esprit nous pouvons prier nous-mêmes, inventer notre propre prière. Et alors la première chose, lorsque nous écoutons cette prière de notre Père, la première chose qui est frappante, c'est que toutes les paroles qui sont dites sont des prières de demande, sont des demandes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain, notamment parmi les chrétiens, il y a un certain malaise à l'égard des prières de demande. Parce qu'on se dit, si on prie pour demander, c'est une prière intéressée, et qu'il vaudrait mieux, au fond, seulement dire merci ou louer Dieu. Eh bien, ce sentiment est peut-être un bon sentiment, mais le Nouveau Testament nous dit autre chose. Dans le Nouveau Testament, presque toutes les prières sont des prières de demande. Parce que, comme le disait Luther sur son lit de mort, devant Dieu, nous sommes des mendiants. Cela est vrai. Alors, quelles sont ces demandes? On peut très facilement les classer en deux ensembles. Il y a d'abord des demandes qui s'adressent à Dieu. C'est pas comme on dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous demandons à Dieu quelque chose que nous ne pouvons pas faire, qu'il réalise son dessein, qu'il réalise son projet pour l'humanité et pour la création tout entière, qu'il réalise le projet qui a donné naissance à la création, au monde, à l'univers, aux plantes, aux animaux et à toute l'humanité. Et il faut bien voir que c'est ce projet qui est en jeu et que nous ne pouvons pas le réaliser. Vous voyez bien, par exemple, quand nous prions « Que ta volonté soit faite », quand on pose la question à des étudiants, par exemple, ou à des paroissiens dans une étude biblique, quand on pose la question « Qu'est-ce que Jésus entend quand il donne dans cette prière cette demande « Que ta volonté soit faite » ?» Alors immédiatement on comprend que les hommes obéissent à tes commandements, que nous obéissions à tes commandements. C'est pas du tout cela. Parce que la volonté de Dieu, ça n'est pas d'abord les commandements. Les commandements, ça n'est qu'une expression de troisième, de cinquième, de dixième rang de la volonté de Dieu. Parce que la première volonté de Dieu, c'est que se réalise le but de la création. C'est que se réalise l'alliance. C'est que se réalise une relation d'amour entre lui et ses créatures. Et c'est ainsi que, par exemple, dans l'Épître à Tite, l'apôtre demande à la communauté de chrétiens, à la communauté chrétienne de ne pas cesser de prier et de prier pour que se réalise la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous voyez donc que la raison d'être d'une communauté chrétienne, c'est pas seulement que nous apprenions à être des chrétiens obéissants, mais la raison d'être de la communauté chrétienne, c'est que nous soyons dans le monde, dans la société contemporaine, en France, à Annecy même, ou dans les villages où nous habitons, que nous soyons les témoins de cette volonté de Dieu de rassembler toute l'humanité dans son royaume, de faire comprendre à tout être humain qu'il est un Dieu de la miséricorde, du pardon, de la réhabilitation, de la guérison et de l'amour. C'est cela la raison d'être de la communauté chrétienne. Et lorsque nous demandons à Dieu que sa sainteté rayonne sur le monde, que sa volonté soit faite, nous lui demandons en conséquence de nous envoyer son esprit pour que nous vivions dans la perspective de ce projet de Dieu. Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus que de respecter les commandements. Et puis, j'ai dit que cette prière pouvait être divisée en deux ensembles. Les trois premières demandes concernent le projet de Dieu pour la création. Et prier ces demandes sont une manière d'apprendre à connaître Dieu, à connaître le projet de Dieu et à nous inscrire dans ce projet. Les trois demandes suivantes, sur le pain, sur le pardon, sur la délivrance du mal, ce sont des prières qui nous concernent nous, qui concernent nos besoins et qui concernent la connaissance de nous-mêmes. Et donc, prier ces demandes, c'est apprendre à nous connaître, apprendre à connaître quels sont nos besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est le besoin du pain. Vous avez remarqué dans la traduction de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, que j'ai lu, dont j'ai lu le texte tout à l'heure, que la traduction n'est pas tout à fait semblable au texte de notre Père, au texte liturgique, tel que nous le récitons dans la liturgie du culte. C'est que ce texte liturgique découle d'un certain accord entre exégètes, protestants, catholiques, entre dirigeants d'église, mais que souvent le texte est plus problématique, le texte grec du Nouveau Testament. Or, la traduction qui me semble plus probable que le texte liturgique, qui est celle qui a été reprise par la Tobe, le pain dont nous avons besoin. Nous avons besoin du pain. Nous avons besoin de sécurité, d'un minimum de sécurité. Et le pain, c'est pas seulement le pain, c'est aussi le vêtement, le logement, un travail. Et alors, ce qui est important de reconnaître dans cette demande, c'est que cette demande est formulée en nous. Donne-nous notre pain, ou donne-nous le pain dont nous avons besoin. Et prier, prendre conscience de ce besoin de sécurité, c'est aussi prendre conscience d'un nous communautaire qui nous invite à une solidarité, parce que ce n'est pas tout seul que nous avons besoin de pain, ou de travail, ou d'un vêtement, ou d'une habitation. Et demander à Dieu ce pain, c'est aussi prendre conscience de cette solidarité avec ceux qui ont de la peine à trouver leur pain ou leur travail. La seconde demande, la demande de pardon, eh bien, elle serait beaucoup plus claire. Nous la comprendrions beaucoup plus immédiatement si l'on traduisait littéralement le grec. Ce que même la Tobe ne fait pas. Parce que le texte grec littéral, c'est « remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent ». Ce qui est en jeu, ce sont les dettes. Et vous voyez, il suffit de voir aujourd'hui ce que signifie la dette. Par exemple, quand on parle de la remise de la dette à certains pays pauvres, on leur remet la dette parce que avoir des dettes, cela supprime l'avenir. C'est une hypothèque sur l'avenir, ça empêche de vivre. Quand on a des dettes, on est obligé de tout concentrer sur l'exigence du remboursement. On ne peut plus faire de projet, on ne peut plus prendre d'initiative. Et d'une certaine façon, celui qui a des dettes, sa vie ne lui appartient plus. C'est la même chose lorsque l'on vit sous le poids de la culpabilité. Et vous voyez, le pardon, c'est la même chose que remettre les dettes. C'est permettre de recommencer, de repartir, de pouvoir à nouveau faire des projets, prendre des initiatives, avoir, comme disait Luther, la conscience libre. Et puis enfin, la dernière demande. Délivre-nous du mal. Ne nous expose pas à la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Parce que précisément, nous sommes fragiles face au mal. Nous sommes fragiles face au mal parce que le mal, ce ne sont pas seulement nos désobéissances au commandement. Le mal, c'est tout ce qui est d'inachevé, de faussé, de ratage dans notre vie, dans toute vie humaine. Il y a pas seulement des mauvaises actions, mais dans toute vie humaine, il y a des ratés, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont faussées. Et ce qu'il y a dans notre vie de raté, de faussé, se reporte sur les autres. Ce qu'il y avait de faussé, de raté, de mensonger dans la vie de nos parents, se reporte sur la nôtre. Et de la nôtre se reporte sur ceux que nous aimons et sur nos enfants. Et vous voyez donc que le mal, ce sont bien sûr nos mauvaises actions, mais c'est ce que l'on voit moins facilement, c'est cet enchevêtrement qui fait que nous sommes tous solidaires du mal qui pèse sur les uns et sur les autres. Et que nous ne pouvons pas, lorsque un autre commet une mauvaise action, même si nous ne l'avons jamais faite, même si nous ne penserions jamais à en faire une semblable, eh bien nous ne pouvons pas dire que nous sommes quittes du mal qu'il a commis, que nous ne sommes pas de la même nature que lui. Prier ne nous expose pas à la tentation, mais délivrons-nous du mal. C'est à la fois reconnaître le mal qui est en nous et reconnaître notre solidarité avec ceux qui font le mal, même avec ceux qui font le mal de façon bien pire et bien plus grave que nous. Parce que peut-être, dans leur vie, une main ne leur a pas été tendue. Peut-être qu'ils ont été éduqués dans des conditions qui ne leur a pas permis d'avoir une vie équilibrée, une vie heureuse, une vie, comme on dit, normale. Cette solidarité, elle est ce que l'apôtre Paul appelle la solidarité dans le péché. Comme il le dit dans l'Épître aux Romains, Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché pour faire à tous miséricorde. Voyez-vous, c'est découvrir cette solidarité dans le mal. Cette solidarité qui fait que nous ne pouvons jamais nous sentir quittes du mal que connaissent les autres. C'est la condition pour que nous découvrions la puissance et la grandeur, l'immensité de la miséricorde de Dieu, qui ne s'adresse à nous que pour faire de nous des porteurs de cette miséricorde à l'égard des autres. Si nous vivons la solidarité dans le mal, que nous découvrions cette solidarité de tous les hommes dans le pardon, parce que cette solidarité, c'est la venue même du royaume pour lequel nous adressons à Dieu notre prière. Amen.